Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission de René Friedman en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous poursuivons notre série science-fiction et science du futur. Et c'est avec Jean-Jacques Lemaire, qui est neurochirurgien au CHU de Clermont-Ferrand, et Izzy Belair, qui est médecin, psychanalyste et auteur, entre autres, du livre Le Feu Sacré, que nous allons aborder peut-être un thème qu'on pourrait amener, la psychochirurgie, les modifications de la pensée ou des troubles, bien sûr, mais aussi de la pensée peut-être, par l'intervention directe sur le cerveau.
La prothèse anti-érection ou ASPIC, c'est-à-dire anti-sex-PIC, avait été mise au point en 1994 au National Institute of Health de Bethesda. À l'origine, il s'agissait d'empêcher les soldats revenant d'un pays d'endémie de transmettre le sida. D'un centimètre de circonférence, épais d'un millimètre et demi, l'implant se plaçait sous la peau du crâne, à peu près au niveau de la tonsure que portent les moines en signe de renoncement au plaisir de ce monde. Constitué par une puce électronique, l'ASPIC était connecté par deux fils microscopiques aux zones neurologiques contrôlant l'activité sexuelle. L'un des fils, après avoir traversé les os du crâne et les méninges, plongeait entre les deux hémisphères cérébraux vers le plancher du quatrième ventricule de l'hypothalamus, où se trouvent les noyaux inhibiteurs de l'activité sexuelle. L'autre parcourait sous la peau l'axe de la colonne vertébrale jusqu'à la deuxième vertèbre sacrée rejoignant la zone de la moelle épinière, dont dépend la mobilité de l'organe mâle. Dès que la puce électronique contenue dans l'ASPIC décelait l'ébauche d'une érection par l'électrode vertébrale, elle la stoppait instantanément en envoyant une décharge de quelques milliampères dans le centre inhibiteur cérébral par l'électrode intracérébrale. Il s'agissait véritablement d'une castration programmée, véritable camisole électronique. Personne ne se doutait alors que l'apparition du feu sacré allait faire de l'ASPIC quelques années plus tard l'unique arme contre la disparition de l'espèce. Depuis plusieurs années, en effet, plus aucun homme n'échappait à l'araignée du plafond.
Voilà quelques extraits du livre Le Feu Sacré que vous avez écrit, Izzy Belair. Donc je rappelle que vous êtes médecin, psychanalyste, écrivain, spécialiste des troubles du langage. Et que vous avez donc, dans ces années 90, pondu un livre de 600 pages, c'est pas rien, qui aborde donc, sous la forme de science-fiction, cette intervention, toujours sous le couvert d'une volonté d'une société qui maîtrise tout et qui là, en l'occurrence, voudrait protéger l'espèce d'une disparition du fait d'une maladie contagieuse qu'on appelle le feu sacré. Et donc, qu'est-ce qui vous a mû pour écrire ce livre ?
C'est tout à fait circonstanciel, c'est-à-dire c'est à partir d'une conversation que j'ai eue, c'était assez amusant, avec Roger Vadim, à l'époque cinéaste, que j'ai rencontré de façon tout à fait par hasard chez un ami commun, et qui me disait qu'il voulait me parler en tant que psy, et il voulait savoir ce que je pensais de l'idée de faire un film sur le Kama Sutra. Alors je lui ai dit que c'était une très mauvaise idée parce qu'entre-temps était apparu le sida et que je lui disais que, à mon avis, un film qui pourrait éventuellement marcher sur les activités sexuelles était plutôt pris dans l'autre sens, sans tenir compte de ce que le Kama Sutra avait de mystique et autres dimensions que je n'aborderai pas ici, et qu'il était beaucoup question à l'apparition du sida d'une idée qui était d'une mutation maligne des virus qui risquaient de faire qu'à un moment donné, le rapport sexuel en tant que tel allait devoir disparaître. Donc il m'a demandé, oh, que c'est une très bonne idée, il m'a demandé d'écrire une page, et cette page, par des différents amis dont je ne parlerai pas là, a finalement atterri chez Robert Laffont, qui m'a appelé, qui m'a dit, est-ce que tu voudrais en faire un roman, et c'est comme ça que ça s'est passé.
Et alors, évidemment, s'il ne peut plus y avoir de rapport sexuel, les enfants, ils vont naître comment ?
Voilà, donc il y avait l'autre idée, c'est pour ça que ça a un côté science-fiction, de cette idée que les enfants allaient se faire en laboratoire, ce dont il est question plus ou moins depuis déjà un certain nombre d'années, et que donc la gestation en tant que telle ne se produirait plus directement, mais simplement sous contrôle de l'État.
Alors, cette thématique, hein, je dirais, du contrôle justement de l'État, aussi bien des pensées, du mode de vie et tout ça, on le retrouve dans un certain nombre, soit de livres, soit de films d'ailleurs. Je pense, j'ai vu récemment, pour préparer cette émission, Equilibrium, où les émotions sont interdites et où la société nouvelle doit s'injecter une drogue qui annihile toutes les émotions, hein, de chaque individu, évidemment. Comme toujours, d'ailleurs, y compris dans le livre Le Feu Sacré que vous avez écrit, Isibeller, il y a toujours des révoltés, il y a toujours une cellule qui, des humains qui n'acceptent pas la mainmise sur la société totalitaire. Et puis, il y a un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est de Eugène Zamiatine, qui a écrit bien avant Huxley et Orwell, cet écrivain russe, qui était mathématicien et ingénieur, avait écrit en 1923 un livre qui s'appelle Nous autres, qui est un petit livre que je vous conseille parce que c'est vraiment un exemple de la société dystopique où il va y avoir aussi une grande opération dont il ne précise pas, hein. À l'époque, la neurochirurgie n'était peut-être pas suffisamment développée, on était plutôt dans la grosse neurochirurgie, c'est-à-dire plutôt la lobectomie et des choses comme ça qui venaient des États-Unis, mais on parle d'une grande opération qui vise à mettre de tout le monde, je dirais, le grand bienfaiteur à demander à ce que tout le monde soit cadré, et on va subir une grande opération pour suivre justement le discours totalitaire, on va dire de ça. Mais vraiment, c'est assez intéressant, l'état unique, donc dans ce livre, hein, où les individus sont numérotés, ils ont droit à une heure de liberté sexuelle, il suffit d'avoir un ticket, c'est un ticket, et puis on a une relation sexuelle avec qui on veut, vice-versa. Et je dirais, c'est uniquement pour bien cadrer et avoir une société parfaitement établie, qui règle toutes les heures de la vie. Voilà. Donc on est un peu sur cette intervention de science-fiction, et encore une fois qui date un peu, mais qui est très d'actualité, je trouve, avec l'émission d'hier où nous avons parlé de la relation de l'homme-machine, l'humain et la machine, et là donc avec ces implants biomécaniques qui peuvent, je dirais, peut-être un jour étendre la mémoire, communiquer, réguler, enfin un certain nombre de choses. Je vous rappelle aussi d'ailleurs de Ian Banks le cycle de la culture, une utopie technique et philosophique d'une société anarchique. Donc il y a de quoi lire et de quoi voir dans ce domaine. Et pourtant, nous sommes en train d'évoluer concrètement vers une pratique médicale qui rentre à l'intérieur par des méthodes mini-invasives à l'intérieur du cerveau et qui va toucher un certain nombre de petites zones sur lesquelles nous allons revenir en détail avec Jean-Jacques Lemaire. Mais restons d'abord sur le livre Le Feu Sacré et puis les autres, donc tout ce qui a été conçu dans la littérature et dans le cinéma.
Il évoque d'ailleurs 1984 d'Orwell.
Bien sûr, le livre d'Orwell, enfin tous les livres sur la dystopie et sur... tous ont un peu le schéma d'une mainmise d'une société qui veut être régulée ou avoir un objectif, qui va procéder donc par différentes voies, mais sur le contrôle des esprits, et sur lequel il va y avoir une révolte, toujours un groupe qui va essayer de se révolter contre cette mainmise. Qu'est-ce que vous avez pensé, Isibeller, en écrivant cela? Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait effectivement un développement tellement fulgurant de la neurochirurgie et de l'imagerie où on arrive aujourd'hui à visualiser la pensée?
Ce n'était pas le centre de ma réflexion. Je le voyais comme une espèce d'élément décisif. J'ai pris un peu le feu sacré. D'ailleurs, c'est le nom qu'on a donné au Moyen-Âge lorsqu'il y avait la maladie qu'on appelait la maladie de l'ergot de seigle, l'ergotisme dont on ne savait pas d'où elle venait, où il y avait comme ça des convulsions et des maladies gravissimes qui apparaissaient à des gens, considérés qu'à l'époque c'était un exorcisme. Il y a eu le Saint-Antoine, il y a eu toute une manifestation religieuse autour de ce phénomène moyenâgeux et qui déterminait toute une série de questions. Il y a une œuvre d'ailleurs, le retable d'Isenheim qui...
Vous en parlez dans le livre.
J'en parle d'ailleurs récemment. Voilà, qui est une espèce de symbole de ce que peut donner une maladie qui échappe à la compréhension des individus. Alors à l'époque, on se référait à Dieu et on parlait d'exorcisme. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus tout à fait de la même manière. Et on peut considérer qu'il y a des... On pourrait dire, enfin ça impliquerait toute une discussion, il y a des mythes fondateurs qui nous permettent de fonctionner notre civilisation, et je pense qu'il peut arriver des événements qui font que les mythes en question ne fonctionnent plus ou plus de la même manière et entrent en crise. Sur ce plan, indépendamment de la fait purement biologique, on peut considérer qu'on vit un peu une période où les mythes fondateurs de notre civilisation sont remis en question un peu partout.
Vous pensez auxquels quand vous dites les mythes fondateurs par rapport à...
C'est-à-dire l'espèce de... Si il s'agit de la démocratie, eh bien le simple fait que l'on puisse continuer à penser qu'il y ait des gens qui sont représentants de notre opinion, qu'il y ait une assemblée nationale, qu'il y ait un consensus indépendamment des revendications diverses. On a l'impression qu'aujourd'hui tout ça est remis très violemment en question, ce qui implique une contre-violence étatique et un état de tension dont on ne sait pas aujourd'hui où il peut nous mener, sauf peut-être des dictatures qui n'en finiraient pas. Donc cette question se pose aujourd'hui, mais évidemment pas dans les mêmes termes. À l'époque du sida, on croyait vraiment, j'avais lu beaucoup d'articles à ce sujet, il y avait un risque majeur qui était une mutation décisive du virus du sida dans l'invasion des lymphocytes avec tout ce que ça implique, qui risquait d'advenir. Et je me suis amusé de partir de ce principe, ce qui fait que cette simple fait biologique a des conséquences sociales et socio-économiques tout à fait considérables.
Mais en fin de compte, l'humanité a toujours été atteinte par des épidémies inconnues dont on ne comprenait pas exactement, je dirais, l'origine et la raison, enfin le mécanisme. Que ce soit les grandes épidémies avant qu'on découvre les bacilles en question, que ce soit les grandes épidémies, que ce soit choléra, peste et autres infections. Et les périodes où vous avez écrit, Zimmeler, ce livre... on ne maîtrisait pas comme on le maîtrise aujourd'hui, et encore pas totalement, mais quand même, cette maladie du sida.
Tout à fait. Enfin, la mutation maligne que j'ai imaginée, heureusement, n'existe pas. Mais c'est vrai. Oui. Mais quand vous parlez de ce qui se passait au Moyen-Âge et autres, il y avait quand même un consensus qui était que s'il y avait une peste, c'était le dieu qui l'avait envoyé, sinon un saint, sinon...
Il y avait une culpabilité.
Il y avait un consensus mythique qui permettait à ces maladies tout à fait redoutables de se développer, d'un certain point de vue. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, en tout cas plus de cette manière.
Dans votre métier de médecin et de spécialiste du langage, est-ce que vous vous intéressez justement aux avancées de l'imagerie, en particulier du cerveau?
Non, pas du tout. Bien qu'il y ait, dans la rééducation telle que je l'ai mise au point, on fait appel à un certain type de travail qui impliquerait quelque chose qui a trait aussi au cerveau, mais pas sur un plan neurologique. Je ne suis pas neurologue, ni chirurgien de neurologie, à forcerie.
Et
je considérais que c'était simplement de manière très concrète que j'avais inventé ce point de vue.
Donc on a ce livre, je trouve, aurait dû être transformé en scénario de film, et encore temps d'ailleurs.
Peut-être. Il a été acheté d'ailleurs pour des droits, mais alors, trop cher, ça faisait trop cher.
Enfin,
c'est ce qu'on m'a dit.
Ah, d'accord.
Oui, il a été traduit aux États-Unis aussi.
Alors ça rentre aussi bien dans Fahrenheit 451 de Truffaut. La lecture, enfin, c'est toujours le plaisir est interdit. Donc là, c'est la lecture qui est interdite parce qu'elle empêcherait les gens d'être heureux. Évidemment, c'est un peu drôle de dire ça à France Culture, mais dans cette projection cinématographique de ce que peut être donc les modélisations de l'esprit, il y a aussi un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Inception. Qui est avec DiCaprio, dans lequel il y a la modélisation de la pensée de l'autre qui peut se faire. Voilà, il y en a énormément, je dirais, dans ce domaine. Donc c'est soit brutal, on va dire chirurgical, les modifications qui sont voulues dans ces livres, je parle de dystopie, bien sûr, ou bien c'est plus subtil, c'est par l'esprit et par la répétition des slogans, et ça malheureusement on sait que c'est plus proche de la réalité, ou bien c'est qu'elle est carrément délirant au sens transhumaniste du terme. Par exemple, Altered Carbon, qui est une où les humains peuvent transférer leur esprit d'un corps à l'autre et vivre ainsi. Par exemple, dans ce film, c'est plus de 200-300 ans. Quoi. Ça revient un peu mort à la mort de Laurent Alexandre, qui pense que le premier homme éternel est déjà né. Voilà. Donc, vous voyez qu'on touche là des choses qui sont peut-être constitutives de nouveaux mythes hein, sur l'éternité. Qui est toujours pénible, surtout la dernière année, comme dirait un célèbre cinéaste new-yorkais. Voilà. Peut-être, j'aimerais que Jean-Jacques Lemaire, qui a écouté avec attention toute cette partie, nous dise quelques mots du développement de la neurochirurgie. Vous êtes à Clermont-Ferrand, neurochirurgien, et vous avez étudié aussi bien à Boston qu'à Los Angeles, donc vous avez... Et vous êtes aussi concerné par les troubles du langage, mais sur un autre aspect. C'est pour ça que je trouvais que c'était...
Ah bon.
Oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai essayé de vous lancer un peu là-dessus. L'évolution, comme ça en un mot avant de rentrer dans le détail de tout ce qui peut être fait, l'évolution de la neurochirurgie. Qu'est-ce qui vous a plu d'ailleurs dans cette spécialité ?
On peut dire que c'est un peu ce que vous avez évoqué dans votre livre. Au jour d'aujourd'hui, on peut techniquement faire... ce qui avait été imaginé il y a quelques années. Ça remonte quand même à pas mal de temps où des chirurgiens, des neurochirurgiens avaient essayé de mettre des électrodes dans le cerveau des gens pour modifier des comportements, plutôt du domaine psychiatrique d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, on peut continuer sur cette voie, mais beaucoup plus raisonnablement, c'est-à-dire on s'intéresse beaucoup plus aux troubles moteurs, mais on commence à s'approcher du langage, indiscutablement. On essaye de déconstruire cette mécanique un peu complexe, pas sous l'angle où vous l'envisagez, les deux sont éminemment passionnants, bien entendu, mais nous, on essaye de faire le lien par rapport à la structure, l'organe en question, d'où l'apport récent énorme de l'imagerie qui nous permet de localiser, alors certes avec une précision modérée encore, on va dire, hein, mais quelque part, on déconstruit cette machine assez puissante pour pouvoir finalement savoir si on peut traiter telle zone ou telle autre zone et commencer à intégrer cela par rapport à ce qu'on constate au plan, quand on voit quelqu'un, quand on parle avec quelqu'un. Donc je dirais que moi, la passion, elle est venue là aussi, hein, c'est de pouvoir justement aider le médecin que je suis, d'abord aider les gens pour pouvoir essayer de compenser des handicaps. C'est un peu notre, là, au travers du livre et des questions qu'on évoque aujourd'hui, on est au-delà d'une maladie, hein. On évoque des comportements. C'est intéressant, vous disiez tout à l'heure, on essayait d'empêcher les gens d'avoir du plaisir, alors que en neuroimagerie, depuis quelques années, il y avait beaucoup d'industriels, par exemple, qui essayaient de voir le fonctionnement du cerveau quand ils étaient en condition d'achat. On essayait plutôt de connaître les comportements des personnes pour essayer de les pousser à faire des achats, plutôt d'avoir des plaisirs, alors pour dépenser leur argent, bien entendu. Mais bon, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses à partir de cela et comprendre cette mécanique aujourd'hui. On n'a pas encore tout saisi, bien entendu, mais la démarche est enclenchée définitivement.
Et cette approche de la maîtrise ou de traiter le cerveau, avant de rentrer à l'intérieur du cerveau, il y a eu, par exemple, les électrochocs,
oui.
Hein, qui étaient justement dans les troubles psychiatriques, je dirais en particulier, ou dit-elle, une proposition avant que les médicaments interviennent. Encore qu'il reste encore des interventions de ce type.
Oui, bien sûr, aujourd'hui, la technique évolue dans le sens de matériel un petit peu moins, comment dire, peut-être moins impressionnant, vu l'extérieur, par l'électricité, avec des champs électromagnétiques, on va dans cette direction, mais le principe même de faire, comment dire, en informatique, un reset, là, une remise à zéro temporaire du fonctionnement cérébral, est quelque chose qui est toujours d'actualité, hein, puisque la plus grosse partie du cerveau antérieur commande tous nos comportements, il est sûr que même en agissant extrêmement globalement, certainement un cerveau humain, quand on redistribue un peu toute la, toutes les cartes à l'intérieur, quand on les rebat, ben, le fonctionnement va repartir. C'est plutôt du côté du comportement qu'on le verra. C'est quelque chose qui est assez facile à comprendre, vu les dimensionnements d'un cerveau humain.
C'est facile à comprendre, encore que la notion de l'électrochoc et de traiter, justement le fonctionnement est un peu mystérieuse quand même.
Oui, c'est vrai que l'utilisation de courants électriques ou de champs magnétiques reste encore quelque chose d'assez obscur. Hein. Enfin, pas obscur au sens physique du terme. C'est vrai que le transfert d'énergie sur des cellules, comment est-ce qu'elles répondent, c'est pas encore totalement maîtrisé. Mais c'est parfaitement utilisé, par contre. C'est parfaitement utilisé dans pas mal de domaines électriques, donc, on l'a dit tout à l'heure, ou électromagnétiques. Donc c'est quelque chose qui est, encore une fois, en médecine, souvent, vous savez, enfin, je prends l'appel à vous, vous le savez, on ne connaît pas toujours tout parfaitement, mais on utilise quand même pas mal d'objets qui permettent d'interférer avec ce qu'on souhaite modifier, même si on n'a pas la maîtrise totale de ce qui se passe derrière.
Matière à penser, René Friedman.
Dans le cadre de notre série science-fiction et science du futur, nous abordons aujourd'hui les modifications possibles du cerveau, soit dans le livre d'Izzy Belair, Le Feu Sacré, et un certain nombre de films qui montrent la mainmise de pouvoirs totalitaires voulus, en tous les cas, sur le comportement humain, soit sur le plan médical, parce qu'il y a un certain nombre de développements d'une intervention mini-invasive, donc en neurochirurgie, et c'est pour ça que, à côté d'Izzy Belair, donc Jean-Jacques Lemaire, neurochirurgien au niveau de Clermont-Ferrand, au CHU de Clermont-Ferrand, est avec nous pour nous raconter un peu le développement de cette chirurgie, de mini-chirurgie, on va dire. Et particulièrement, peut-être, dites-moi si je me trompe, mais c'est vraiment le traitement de la maladie de Parkinson qui a été quand même une étape importante, une voie ouverte à d'autres interventions.
Oui, ça a débuté par l'maladie de Parkinson et en fait surtout par le tremblement associé à la maladie de Parkinson. Et finalement d'autres maladies peut-être moins connues mais quand même extrêmement fréquentes qu'on appelle le tremblement essentiel. On a tous vu quelqu'un qui tremblait de manière un peu importante. C'est vrai que c'est peut-être le premier contrôle moteur qui a pu être vraiment bien maîtrisé par ces techniques. Finalement, on envoyait un peu de courant électrique sur une toute petite région du cerveau.
Donc là, on n'est plus justement dans l'électrochoc, on est dans un courant électrique très focalisé.
Très focal. C'est un petit peu l'opposition qu'on peut faire entre les médicaments qui agissent assez globalement en fonction des récepteurs sur lesquels ils agissent et qui sont distribués un peu partout dans le cerveau. Où là, avec ces techniques-là, on travaille sur les circuits, c'est-à-dire là où ils passent, avec quoi ils sont connectés, comment cet environnement interagit. D'ailleurs, dans votre livre, j'ai noté que vous aviez aussi pris en compte le fait que juste autour de ces petites régions, il y a peut-être d'autres petites régions qui peuvent être touchées et qui interfèrent avec d'autres circuits. On est exactement dans cette dimension aujourd'hui et toute la maîtrise est d'aller au bon endroit, mais ça, on arrive beaucoup mieux à le faire. Mais on n'a pas encore la connaissance absolue de tout cet environnement. Il est assez sophistiqué, il faut bien le reconnaître. Mais voilà, on peut aller dans ces régions et c'est vrai que le mouvement, ce tremblement, qui était une maladie de Parkinson ou un tremblement essentiel, on va dire, a été transformé et de manière réversible. Ça a été un peu l'immense progrès, puisque quand on arrêtait la stimulation, eh bien, les symptômes, les signes réapparaissaient assez brutalement, hein, en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Donc c'est là où finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait de manière efficace interférer avec un circuit dans le cerveau qui paraissait peut-être un peu compliqué au départ, mais bon, on a dit, ben tiens, à cet endroit-là, effectivement, c'est là où ça passe. Donc c'est quelque part, c'est une vision un peu, peut-être un peu étrange, que les gens n'ont pas, c'est-à-dire qu'il y a des circuits, des zones bien précises qui peuvent interagir. C'est pas le cas partout, à tous les niveaux, mais il y a des endroits comme ça. Donc aujourd'hui, on essaie de les décrypter. Ça a été une vraie révolution.
Il faut dire à nos auditeurs que toutes les maladies de Parkinson ne nécessitent pas un abord neurochirurgical. Mmh. Et qu'il y a, heureusement, d'ailleurs, un prix Nobel, il y a eu plusieurs prix Nobel autour de cette maladie, mais en particulier sur un médicament qui est la L-DOPA, ce qui est la dopamine qui manque hein, dans cette destruction d'une partie de la substance noire, et qu'on peut remplacer, donc beaucoup de Parkinsoniens, Parkinsoniennes sont améliorés par ce type de médicament. Mais il y a des résistances, il y en a qui ne supportent pas, ou en tous les cas ont un traitement qui est médical qui est inefficace, ou pas complet. Et donc c'est là où vous pouvez intervenir, depuis en particulier les travaux de Pollack et de Benabine à Grenoble et Genève, qui ont développé, on va dire, cette technique de stimulation avec la fréquence voulue ou continue. Enfin, il y a des discussions selon les équipes. C'est pas encore parfaitement fini. Hein. Il y a toujours des développements à, et puis il y a même peut-être un futur avec des stimulations à la demande qui peuvent se faire. Je ne sais pas.
On commence un peu à aller. On est au tout début aujourd'hui de ce qu'on appelle des systèmes en boucle, où finalement, vous l'avez un peu évoqué, on récupère l'information du cerveau, et quand une information est pertinente, l'appareil envoie une stimulation. Finalement, c'est ce qui se passe assez couramment dans le cerveau humain, sur les circuits, on le reproduit. Mais en termes de décryptage, comment lire l'information qui provient de ces neurones, on sait faire. Et même sans comprendre, on peut arriver à décrypter et finalement à réagir à une certaine activité. Voilà, j'espère quand même, on travaille tous pour mieux comprendre quand même quand il se passe ce phénomène identifié, qu'on puisse savoir dans quel contexte ça joue. Mais voilà, en même temps, les outils qui permettent d'analyser l'information, traiter l'information, s'améliorent, vont de plus en plus vite, sont de plus en plus réduits. Et c'est les premiers systèmes en boucle. Ils ne sont pas encore opérationnels en termes cliniques, pour une application, pour soigner quelqu'un. Mais ils sont clairement dans le domaine de la recherche médicale appliquée.
Alors, pour aller dans ces zones spécifiques, donc vous déterminez, vous tentez de déterminer, au niveau du cerveau, vous opérez sur une personne éveillée ou sur une personne endormie ?
Alors historiquement, on est intervenu sur des personnes qui étaient éveillées, parce que finalement, c'était le meilleur moyen de contrôler pendant l'opération, qu'on maîtrisait un tout petit peu moins au début, c'est légitime, et plus ça va quand la technique s'est rodée, maintenant elle a tendance à devenir plus sous anesthésie générale, parce que finalement, c'est peut-être pas la peine de participer à un événement qui est quand même assez interpellant, hein, quand on est patient, les gens s'interrogent beaucoup sur ça, et donc dans ce cadre-là, quand la maîtrise est là, on peut se permettre de laisser les gens endormis, puisque finalement, ce qui va compter pour eux, ce n'est pas les étapes intermédiaires, c'est le résultat final et le bénéfice qu'ils peuvent attendre de ces techniques.
À quelle autre affection, à part le Parkinson, donc, qui est un peu le point de départ de cette chirurgie mini-invasive, à quelle autre affection la recherche, puisque vous avez bien précisé que ce n'est pas encore tout à fait thérapeutique, mais la recherche s'intéresse ?
Alors il y a des applications reconnues en maladie psychiatrique pour les troubles obsessionnels compulsifs très sévères, bien sûr, on ne parle pas de choses extrêmement courantes. Il y a une autorisation de pouvoir utiliser ce type de produit, de technique. Certaines maladies qu'on appelle des dystonies, c'est des contractions de certains muscles de manière exagérée.
Involontaire,
bien sûr, et donc non maîtrisées du tout par le patient, qui va être très handicapantes et qui peuvent parfaitement bien répondre à ces stimulations. Ça, c'est les indications qui sont reconnues, admises, on va dire, pour les soigner, on peut être traité avec ces techniques. Et puis, en termes de recherche, évidemment, tout le domaine de ce que vous évoquiez au début, on appelle ça, nous, la psychochirurgie. Mm-hmm. Peut-être c'est pas le meilleur mot à employer, mais bon, on va dire que c'est celui qui est utilisé du côté médical actuellement. Et c'est vrai qu'il a une forte connotation négative suite aux premières techniques un peu anciennes, faites par des psychiatres par ailleurs. À l'époque, c'était même pas des neurochirurgiens qui s'occupaient de ça. Mais on va dans cette direction, mais ça nécessite beaucoup d'interactions avec nos collègues psychiatres, psychologues, enfin c'est une évidence. Il faut arriver à bien maîtriser le comportement des gens et ne pas entraîner de choses qui seraient...
Oui, quels sont les risques ? de ce type d'intervention? Est-ce qu'ils sont d'abord de pas réussir,
ça c'est sûr. Oui, ça je pense que c'est.
Mais est-ce qu'on peut avoir des complications?
Oui, bien sûr. Dès qu'on interfère avec un organe, il y a toujours les mêmes risques classiques de chirurgie, d'hémorragie, d'infection. Il ne faut jamais les oublier. Ils sont faibles, les techniques sont bien maîtrisées, mais ils ne sont pas ramenés à zéro, loin s'en faut. Après, eh bien, c'est tout ce qui n'était pas forcément prévu initialement, parce qu'en modulant certains circuits, on peut faire apparaître d'autres choses qui n'étaient pas anticipées. On l'a vu, remarquez avec les médicaments, c'est ce qui s'est passé. Vous parliez de la dopamine, c'est qu'au début, quand on a été employé, c'était finalement assez merveilleux. Puis on s'en rend compte au bout de quelques années qu'au long terme, ça provoquait d'autres choses qui n'étaient pas initialement anticipées. Donc en termes de stimulation, c'est un peu ça aussi. Mais c'est plus rapide, on voit tout de suite les effets. Il n'y a pas d'effet avec le temps. Par exemple, sur les stimulations cérébrales, parfois dans Parkinson, on se rend compte qu'au cours du temps, finalement, ça ne bouge pas. Contrairement à un médicament qui aurait pu avoir une relation biologique un peu différente avec les cellules, bien là, ça reste un effet constant au cours du temps. D'autres choses apparaissent à côté, malheureusement.
Izzy Belair, comment vous voyez ça, vous, en tant que psychanalyste, cette intervention directe sur le cerveau?
Le rapport psychologique, scientifique, avec ces symptômes dont il est question, ne sont pas exactement de la même nature, bien qu'ils se complètent d'un certain point de vue. Bon, enfin, on part du principe simple que nous avons, que le fait de parler, par exemple, le fait que je parle en français impliquait une formation. Cette formation commence dès la naissance. C'est-à-dire un petit bébé qui naît, il est capable de produire un certain nombre de sons, et au bout de 3 semaines, il en produit moins, parce que peu à peu, c'est les formes organisationnelles de son langage est liées à la voix maternelle, d'où l'importance d'ailleurs de parler aux petits-enfants, ce qui a été très largement démontré. Donc on est dans une organisation, et toutes les difficultés apparaissent du fait que vivre dans une organisation et de s'y sentir bien, eh bien, on dit qu'on est normal et on est heureux, et dès qu'on est dans une organisation et on s'en sent mal, on est malheureux. Donc la question de savoir comment faire pour que ce sillon qui a été établi dès la naissance et qui implique aussi une organisation sociale, culturelle et autres, on puisse en changer. C'est le fond même de tout travail psychothérapique ou psychanalytique. Donc c'est une question tout à fait essentielle. Enfin, moi, je le traite de cette façon-là, c'est-à-dire de créer un modèle, si je puis dire. Je vais un peu vite parce que c'est un peu bizarre de le dire de cette façon, mais enfin, lié au rapport que l'on établit avec un patient, qui peut faire que peu à peu, il se dégage d'un sillon qui est devenu une espèce d'ornière dont il ne se sort pas, pour éventuellement être capable de créer un nouveau sillon. Mais nous sommes tous dans des sillons. Ça implique l'idée que vous avez développée tout à l'heure avec ce roman, que les sillons peuvent devenir coercitifs.
Mais par le langage, par l'écoute, par la relation avec l'autre, vous dénouez donc par la psychanalyse.
Je crée un contre-modèle. Je pense que quelquefois il est nécessaire de courir un contre-modèle pour sortir de certains symptômes. Dans la psychanalyse, c'est dans le rapport que l'on établit avec ce qu'on appelle le transfert, pour aller un peu vite, qu'on établit avec son patient. Dans les troubles du langage, c'est autre chose. Mais d'un certain point de vue, le problème est le même.
Alors, pour revenir à l'action chirurgicale, il y a d'autres types d'interventions, en particulier des injections. J'ai lu des injections de cellules souches proposées par une équipe japonaise, en particulier de Kyoto, pour essayer de développer de nouveaux neurones. Donc c'est du domaine de la recherche sur lequel nous ne nous étendrons pas aujourd'hui. Il y a d'autres recherches, en particulier j'ai vu que l'équipe d'Amiens avait développé justement dans la maladie de Parkinson plutôt une chirurgie au laser pour essayer de supprimer les tremblements, donc quelque chose peut-être de plus précis et de moins lourd, encore que ça mérite sûrement d'être développé. Je ne sais pas quelle est votre opinion.
En fait, les outils, les moyens pour soit on détruit, soit on est plutôt une époque aujourd'hui où on module, c'est-à-dire on essaie de ne pas détruire les cellules, mais les maintenir en activité, essayer de leur changer leur manière de se comporter. Soit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut faire des greffes, c'est-à-dire à ce moment-là, on remplace les cellules par autre chose. Je crois que pour ce qui est des greffes, on a autant de difficultés que pour maîtriser, par exemple, la diffusion d'un champ électrique. C'est-à-dire qu'on est capable de positionner, je crois qu'aujourd'hui, le placement spatial dans le cerveau est assez bien maîtrisé, mais par contre, la maîtrise de ce qui se passe ensuite est très très complexe. C'est-à-dire, on peut effectivement demander les cellules vous savez comme moi, de produire certains métabolites, et on peut les placer sur place, mais l'efficacité globale reste encore... Elle est là, on sait que ça apporte une amélioration, mais c'est encore non maîtrisé.
Elle peut être transitoire en plus.
Et elle peut être transitoire, vous le savez. Donc on est plutôt actuellement sur des modèles, on va dire, biophysiques, hein, c'est-à-dire que la biologie et la physique se rapprochent à ces échelles. Nous, techniquement parlant, on ne peut pas descendre tout à fait à des échelles aussi petites, hein, quand on est sur le niveau des cellules, mais on peut avoir des moyens de positionner plutôt des systèmes biophysiques. C'est un petit peu l'évolution. Peut-être qu'on a un peu peur aussi de mettre des cellules dans un cerveau sans en connaître parfaitement ce qui me paraît, moi, assez légitime comme démarche. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas encore de réponse, mais ce qui est certain, c'est l'évolution technologique qui permet de positionner dans des régions assez difficile d'accès, qui était quasiment inaccessible il y a encore une dizaine d'années pour certaines.
Alors, Jean-Jacques Lemaire, si je ne me trompe pas, à Clermont-Ferrand, vous avez fait une étude particulière sur les personnes inconscientes.
Oui, c'est un travail de fond, hein, de longue haleine, c'est 10 ans comme souvent dans ces cas-là, pour essayer de partir de circuits cérébraux utiles dans la conscience qui sont évidemment lésés suite à un traumatisme ou à un accident neurologique très grave. Et finalement, avec les capacités résiduelles, l'objectif était d'essayer de stimuler. On n'en a pas trop évoqué tout à l'heure, mais les cellules, on peut soit les activer, soit on peut leur empêcher de fonctionner, réduire leur activité. C'est comme avec un médicament. Et bien là, en fonction des fréquences, on peut faire un peu les deux. Et là, l'objectif était justement de voir si on pouvait entraîner, hein, provoquer, faciliter la mise en route de ces circuits. Et effectivement, c'est possible. La difficulté vient de la complexité des circuits qui interviennent pour une conscience pleine et entière. Évidemment, quand il y a beaucoup de dégâts dans le cerveau, il est utopique d'imaginer que tout va fonctionner parce qu'on réentraîne quelques circuits. Certains sont définitivement détruits, on ne les remettra pas. Mais disons que ça montre qu'il est quand même possible d'atteindre des modes de fonctionnement qui font appel à des signes qui sont moins connus, moins maîtrisés par le grand public. C'est-à-dire la motricité, on voit bien ce que c'est. On a évoqué ce que vous disiez tout à l'heure sur tout ce qui est le comportement. Mais là, les défauts de conscience, le médecin que je suis, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile à expliquer, mais on voit bien ces patients qui sont peu répondeurs et qui peuvent plus interagir avec leur environnement. Ce qui est parfois très utile pour les familles, les entourages, et on peut espérer donc dans le futur que s'il y a moins de dégâts, évidemment, le bénéfice sera plus important. Vous savez comme moi qu'en médecine, souvent, on commence par des situations qui sont souvent un peu les plus compliquées.
Oui, c'est risque contre risque du nouveau.
Mais bon, c'est une étape parmi d'autres sur ce long chemin.
C'est un travail inaugural que vous avez mené dans votre équipe, hein, si j'ai bien compris. Pour terminer cette émission, j'aimerais bien aborder avec vous un personnage qui s'appelle Elon Musk, que vous connaissez sans doute, puisque c'est lui qui a créé les voitures Tesla, SpaceX. Il veut envoyer dans l'espace, conquérir l'espace, on va dire, et même aller sur Mars, et qui a créé une société qui s'appelle Neuralink, capable de transmettre ou d'apporter des pensées à un ordinateur. Enfin, c'est l'objectif, en tous les cas. Alors, au début, on se dit, non mais attends, où est-ce qu'il va? C'est complètement... On est dans du roman... On est dans un nouveau roman de fiction. Mais en fait, il y a quand même des choses qui méritent qu'on s'y arrête. Parce que j'ai vu que sur la dentelle neurale, le travail qu'ils font pour créer des fils plus fins qu'un cheveu, hein, beaucoup plus fins qu'un cheveu, avec 32 électrodes qui peuvent être placées et qui sont reliées au cerveau pour essayer de... Alors, c'est pas fait encore, je veux dire, mais il y a quand même une volonté, un travail avec beaucoup de gens. Il a réussi et puis il a peut-être lui-même, en tous les cas, à valoriser, on va dire, cet objectif de télécharger sa pensée, ou les pensées. Donc, avec des tests qui ont été faits chez le singe, entre guillemets, pour permettre les levées de paralysie. Et en particulier, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est de repermettre à quelqu'un qui est paralysé par la pensée de bouger en particulier un bras ou une main. Donc c'est modeste, mais c'est quand même énorme. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui, actuellement, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Là, vous parlez d'interface directe. Hein. J'étais aux US à l'époque, c'était à Rhode Island où les premiers ont été faits. Ces interfaces, c'était la brain gate, l'accès au cerveau. Donc aujourd'hui, il y a des difficultés de tolérance et peut-être que la lecture de l'information peut être faite à partir plutôt de petites antennes, de nano-antennes placées à la surface plutôt que d'être invasif. Mais évidemment, c'est vrai pour ce qui est de l'information de surface. Ça ne sera pas vrai pour l'information en profondeur. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de comprendre le signal, mais il suffit de détecter une information assez simple. Mais c'est vrai que un singe est capable de contrôler un bras robotisé. Hein. Ça fait 10 ans qu'on le sait, ça peut un peu surprendre. Mais voilà, même des souris ont été capables d'agiter un bras. Il suffit finalement d'assez peu d'informations si le robot lui-même fait une action très sophistiquée derrière. Donc ces interfaces, comme ça s'appelle les interfaces cerveau-machine aujourd'hui, enfin vu du côté du chirurgien,
oui, bien sûr, non,
mais ça va très au-delà, l'interface cerveau-machine, c'est effectivement pour commander les véhicules, pour commander des différents types d'appareillages, voire dans l'industrie, on est très proche de cela, sur des choses assez simples. Ça m'effraie un petit peu parfois quand même, parce qu'on va demander aux gens d'imaginer, quand on sort du domaine médical, d'avoir un contrôle à la fois usuel de ses bras, de ses jambes, de ses pensées. Il faut imaginer un autre. On travaille sur encore quelque chose en parallèle pour activer quelque chose à côté. Ça va quand même nécessiter. C'est pas si simple à maîtriser tout ça.
Non.
Et les quelques patients qui en ont bénéficié, il y a un épuisement. Ça fatigue très 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 vite. C'est encore assez assez complexe. Mais en tout cas, on est parti dedans. J'espère le moins invasif possible quelque part. C'est plus élégant et sûrement plus intéressant quand même.
Mais j'ai vu que là, en juillet de cette année, hein, donc il y a un mois, il y a eu une conférence de presse sur cette symbiose, hein, oui. Toujours par le groupe d'Elon Musk, là, de Neuralink, qui propose d'implanter donc des fils, je veux dire, qui sont reliés à une machine qui elle-même peut être sensible à la pensée, donc c'est quand même quelque chose en plus moins invasif, comme vous le dites, par perçage ou laser localisé, non plus.
Je dirais bien un mot quand même.
Mais au contraire.
Le mot piège, c'est le mot information. C'est-à-dire que dans l'ordre de ce qui nous intéresse, on imagine que l'on peut transformer on peut transmettre une information. Le problème de la pensée, c'est que c'est pas que de l'information, c'est aussi de l'invention. Et la question qui est posée lorsqu'on parle de rapport du cerveau avec la machine, c'est est-ce qu'on peut faire une machine qui invente quelque chose ? Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, c'est considéré comme impossible. Quelle que soit la puissance d'une machine numérique, elle ne fait jamais que de l'information, c'est-à-dire, d'un certain point de vue, répéter les algorithmes que l'on a mis dans la machine pour pouvoir le faire. Lorsqu'il s'agit de conduire une voiture, on peut peut-être transmettre de l'information, en effet. Mais on ne peut pas transmettre des éléments qui n'ont rien à voir avec l'information, bien qu'elle soit utilisée, pour créer ce qu'on appelle proprement une pensée.
Ceci dit, dans ce mécanisme, je dirais, de la mobilité, encore une fois d'une paralysie, y a une interface qui se fait homme-machine et qui serait, encore une fois, à démontrer, hein, qui aurait une certaine efficacité. Ce n'est pas...
Je ne l'ai pas enlevé.
Non, j'ai bien compris. Mais ce que je voulais dire, simplement pour terminer notre rencontre, c'est qu'il y a des développements sur l'interaction entre la machine et le geste chirurgical, ou la machine et le fonctionnement cérébral, qui est quand même hallucinant pour les années qui viennent. Voilà un peu le but d'alerter sur cette nouvelle piste. Et de vous remercier d'être venu, Jean-Jacques Lemaire, neurochirurgien, Izzy Belair, psychanalyste, écrivain, pour parler avec nous de cette nouvelle approche de la fonction de la pensée et du mécanisme du cerveau. Je vous rappelle que c'est une émission en partenariat avec le quotidien du médecin, qu'elle était réalisée grâce à Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne Fleury, Alain Joubert et Maïwenn Le Jehan. Nous avons le plaisir de vous offrir cette nouvelle édition par internet franceculture.fr ou la podcaster autant que vous le souhaitez. Et je vous donne rendez-vous à demain pour la poursuite de notre série « Science-fiction et science du futur ».